peregrino y váyate con Dios. Bon chemin pèlerin, Dieu te donne la main. Santiago, donne-nous du courage.
Bonjour, c'est toujours avec le même plaisir que le messager du cheval vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle chronique dédiée à celui qui, dit-on, est la plus belle conquête de l'homme, le cheval. Une émission proposée par Jean-Yves Bonnet.
Bonjour à tous.
Et Michel Clément, tous les mercredis et les samedis à 12h35 sur CFM Radio, la radio de proximité que vous êtes toujours plus nombreux à écouter, et vous avez bien raison. Alors Jean-Yves, en selle pour 25 minutes ?
Un seul pour 25 minutes, et c'était simple, et je vais remonter tout à l'heure.
Tu vas descendre et tu vas remonter tout à l'heure, et ben donc voilà, 25 minutes en selle, Jean-Yves. Alors, on va prendre le cheval au mot, et aujourd'hui c'est le mot quintaine. Alors, dans les spectacles actuels de chevalerie, on voit souvent des cavaliers munis de lances se précipiter au galop sur un poteau pivotant dressé en bordure de piste et qui porte à son sommet une double potence soutenant d'un côté un écu et de l'autre, relié à une chaîne métallique, une lourde balle en caoutchouc. C'est la quintaine. Alors, jusque-là, t'es d'accord ?
Caoutchouc, non, pas du tout. C'était une boule en fer.
Ah oui, non, mais actuellement.
Il fallait pouvoir taper et puis baisser la tête pour éviter la boule en fer qui tournait et qui risquait de te prendre par la tête.
Voilà.
Donc, double action.
Voilà. Alors, effectivement, mais là, je parle de la quintaine qu'on utilise maintenant dans les spectacles.
Oui,
on essaye de ne pas trop démolir les participants, quand même.
Mais à l'époque, ils étaient habillés en conséquence aussi, avec les
cuirasses,
avec l'homme et tout ça, c'était du fer. Donc, vous pouvez prendre la boule dans la tête. Là.
Voilà. Alors, c'est ça, effectivement, quand on tape sur l'écu, par exemple, dans la quintaine actuelle, tout ça pivote et si on n'est pas assez rapide, eh bien, on se prend la boule dans le dos, comme tu viens de le dire, ou dans la tête, ou ça peut, des fois, même le cheval peut le prendre sur le cul et il peut partir très vite. Alors bon, voilà, c'est quand même en jouant, c'est quand même enfin, il faut savoir se le faire.
Ah, mais c'est un jeu d'adresse, il faut pouvoir amener son cheval dans la direction, le tenir dans la lisse et pouvoir y aller franchement, parce qu'il y a toute la vitesse du cheval qui fait la force. Mais d'ailleurs, il n'y a pas que dans la chevalerie, il y en a dans les bateaux aussi, puisqu'il y a aussi des joutes en barque, et il y a aussi des pour s'entraîner, des mannequins et des quintaines. C'est une espèce de mannequin qui peut être habillé ou déshabillé. Donc, la quintaine peut être habillée en écuyer ou un chevalier avec un emblème, avec l'héraldique ou le cimier.
Alors, le mot quintaine apparaît vers le XIe siècle. Il est issu de l'adjectif latin cantanus, qui signifie de 55 et qui désigne la rue du cinquième rang. En effet, dans un camp romain, on donnait ce nom à la ruelle qui séparait la cinquième et la sixième manipule, l'espace où se tenait le marché. C'est à cet endroit-là, il y avait, dans les camps retranchés romains, il y avait un marché, donc c'est là où se trouvait le marché. Et contrairement aux chevaliers du Moyen-Âge, on peut dire que courir à la quintaine signifiait tout simplement pour le légionnaire romain aller faire ses commissions.
Ah ouais.
Et on peut alors imaginer le dialogue suivant, Jean-Yves. Hein. « Hey Marcus, cours vite à la quintaine, acheter trois salades avant qu'il n'y en ait plus et n'oublie surtout pas, comme la dernière fois, de ramener la botte d'oignons. »
Voilà. Oui, mais le problème, c'est que la quintaine se faisait à cheval, elle se faisait pas à pied. Hein.
Oui, mais pour les Romains, non, c'était les camps romains étaient quadrillés par des rues, enfin tout ça était bien organisé,
ouais.
Et entre la cinquième et la sixième manipule, c'est 10 personnes, il y avait donc cette fameuse rue qui est l'espace du marché, puisqu'il y avait un marché. Voilà, et ça a évolué petit à petit, comme tu l'as dit, en mannequin et en jeu d'adresse. Alors, longtemps, pour les hommes, le cheval a été considéré comme un simple gibier chassé tout comme le chien, le bison, l'auroch ou encore l'élan, le cerf, le renne ou encore le sanglier. Le dépôt du site de Solutré, vieux de 18 000 à 15 000 ans, au lieu dit Ducrot du Charnier, ce qui veut bien dire ce que ça veut dire, près de Mâcon dans le département de Saône-et-Loire, contient un amoncellement d'os correspondant à environ 100 000 animaux, principalement des chevaux. C'est une chasse intéressante dans la mesure où un seul cheval peut procurer à un groupe de 30 personnes la nourriture pour une dizaine de jours, donc ça vaut le coup.
Oh, mais ça ne m'était pas autrefois, parce qu'on faisait un couloir et puis on précipitait les chevaux dans le vide, dans le précipice, et puis on récoltait en bas.
Alors, dans les peintures, les sculptures et les objets du néolithique, le cheval représente 24% des sujets de bison, le bison 15%, les cervidés environ 5%, quant à l'homme, lui, il reste assez peu figuré, à hauteur de 4%. Donc, on voit à quel point le cheval était important, puis c'est lui qui est le plus dessiné, le plus peint. Alors, selon les zoologues, le cheval dit moderne serait originaire d'Asie centrale et se serait répandu au fil des millénaires sur l'ensemble du continent, à l'exception du continent américain où il était introduit, comme on le sait, par les Espagnols à la fin du XVIe siècle. Alors c'est un cheval de petite taille, 1,25 m au garrot, la taille d'un poney actuel en fait. Il restera longtemps à cette oise, comme on peut le voir dans les textes et les illustrations de l'Antiquité. On en trouve la trace chez le cheval de Przaski, chez le tarpan polonais aussi, mais aussi, quoique cela reste encore discuté par les spécialistes, peut-être aussi le cheval Camargue, qui serait un cheval assez antique.
Oui, il y a des grottes préhistoriques, il y a
Il ressemble un peu. Ouais. Alors le cheval a su néanmoins pratiquement s'adapter à tous les climats et à tous les écosystèmes. À l'origine animal de steppe, il a également colonisé les forêts, clairsemées, les déserts et les régions de moyenne montagne. Et comme la plupart des herbivores, le cheval est un animal sociable qui vit en troupeaux nomades plus ou moins importants. Chaque troupeau est mené par la matriarche, une jument âgée qui a la mémoire des emplacements où l'herbe pousse et les points d'eau. Donc c'est un petit peu la mémoire du troupeau. Alors quelques documents rupestres et des objets nous donnent également une idée de la façon dont les hommes ont utilisé le cheval en dehors de la simple ressource alimentaire, hein, pas rien que pour le manger. Il date pour l'Europe du premier millénaire avant notre ère, à la fin du néolithique, dans cette période que les archéologues nomment le Hallstatt ou encore l'âge du fer. On y voit un dessin rupestre trouvé en Norvège qui montre un cavalier levant la main au-dessus de sa tête, ou encore dans la Sierra Morena en Espagne, une gravure rupestre où trois personnages tiennent chacun un petit cheval à l'aide de ce qui ressemble fort à des licoles. Nous avons la confirmation qu'en Europe, dès le néolithique récent, le cheval était non seulement domestiqué, mais également attelé, voire monté. En Europe. Mais l'extraordinaire histoire de la domestication du cheval en Occident est-elle la même qu'en Orient ? C'est ce que le messager du cheval va vous conter maintenant, après une pause musicale. Sandro Joyeux, d'art avant la musique. Entre le 4e et le 3e millénaire qu'apparaît pour la première fois dans l'écriture chinoise un signe qui indique le cheval. Cela ne surprend pas quand on sait qu'il y a 5 millénaires, on trouve déjà en Chine les traces d'une cavalerie militaire organisée. En fait, un peu plus de 2000 ans plus tôt, un peuple de pasteurs voisins des Chinois qui nomadisaient entre les monts de l'Altaï et le désert de Gobi avaient réussi à domestiquer le cheval. Ce sont évidemment les Mongols. Ce sont eux qui vont en quelque sorte exporter à travers toute l'Asie les techniques d'élevage et l'art d'utiliser aussi bien à la chasse qu'à la guerre le cheval. Alors, entre moins 3000 ans et moins 2000 ans en Mésopotamie, les Sumériens utilisent les premiers chars attelés. Donc on voit que c'est vraiment une longue histoire. Entre moins 1700 et moins 1780, les pasteurs guerriers Hyksos, venus de la région de la Caspienne, de l'Ukraine et des Balkans, défont les armées égyptiennes grâce à leurs chars de combat. C'est la première fois que les Égyptiens voient des chars de combat, ils sont un petit peu inquiets. Un siècle plus tard, en moins 1600, les Hittites s'installent au Proche-Orient, utilisant à la fois le char de combat et le cheval monté, ils disposent d'une cavalerie redoutable dont les Égyptiens auront du mal à venir à bout. Et on avait vu ça avec Ramsès II, les Hittites lui avaient donné du fil à retordre.
Et les Hittites montaient à cheval sans rien dans la bouche.
Et vers 1360 avant notre ère, c'est à Kikoulis, un écuyer du roi Hittite Mursil II, que l'on doit le premier traité connu à ce jour sur l'art de monter et de soigner les chevaux. Le premier traité. Il faudra attendre les écuyers grecs Simon et surtout Xénophon, que tu aimes bien, pour avoir sur ce sujet deux traités qui étonnent encore aujourd'hui par leur finesse d'observation et leur modernisme. C'est vrai que c'était des observateurs et des gens subtils, hein, des connaisseurs. Entre moins 1200 et moins 800, les cavaliers doriens envahissent la Grèce. Ce sont aussi des cavaliers. Donc, c'est vers la même époque qu'apparaissent les cavaliers assyriens suivis des cavaliers scythes. Donc, on voit ce remue-ménage qui a lieu dans surtout le continent asiatique, où vraiment par vagues successives et de façon assez rapprochée, des peuples nomades cavaliers arrivent. Et alors, deux siècles plus tard, entre moins 1000 et moins 500, c'est l'entrée en scène de nos cavaliers de l'époque du Hallstatt dont on a vu tout à l'heure un petit peu l'histoire. Alors de l'autre côté de la Méditerranée, l'Éthiopie et la Libye étaient réputées pour le nombre et la qualité de leurs chevaux, les barbes et de leurs cavaliers. Les voyageurs rapportent que quand un prince éthiopien mourait, il se faisait enterrer avec ses chevaux favoris revêtus de leur harnachement d'apparat couvert d'or et d'argent. Enfin, vers moins 200, Alexandre le Grand organise ses redoutables phalanges ainsi que sa non moins redoutable cavalerie qui conduit, montée sur Bucéphale, le fameux Bucéphale, son fameux cheval de guerre.
Oui, bien sûr, le cheval est montable.
Le cheval réputé immontable, il était seul à savoir le monter, absolument. Alors, l'Orient antique a toujours vénéré le cheval au point de l'associer parfois à une divinité et d'en faire comme en Inde, un dieu assimilé à la flèche silencieuse et rapide. En Inde, le cheval, en sanskrit, le caractère sanskrit, c'est une flèche silencieuse et rapide. Une exception malgré tout, les prophètes hébraïques interdisaient à la fois de mentionner le cheval et de l'utiliser, seul bémol. Alors, il était pour eux l'emblème des mœurs dissolues, dépravées, du luxe ostentatoire et de l'orgueil. Tu vois, rien que ça. À fréquenter le cheval, on perdait son âme. Il n'empêche, dans la Bible, le livre des rois, alors là, c'est un peu contradictoire, apprend que Salomon possédait 12 000 chevaux de selle et 4 000 chevaux de chariot dans ses écuries. Alors Jean-Yves, toi qui es imbattable en calcul mental, pour nourrir 16 000 chevaux, il faut prévoir chaque jour combien d'hectares de foin et de litres d'eau.
Oh là là.
Tu as deux minutes pour répondre.
Non, c'est incalculable.
C'est incalculable, il en fallait, et les palefreniers aussi. Sûr, oui. Ça faisait du monde, hein, pour les chevaux.
Oui, mais les chevaux vivaient beaucoup à l'extérieur. Ils vivaient dehors, ils mangeaient des herbes, des pâtures. Donc quand il s'est déplacé, il s'est déplacé avec toute la horde de chevaux, et il buvait à même le lait, et il buvait à même le sang aussi du cheval, dans la
gélulaire. Oui, mais enfin bon, Salomon c'était quand même en Palestine, enfin l'actuel Israël, donc les verts pâturages de ce coin-là, à mon avis, il n'y en avait pas beaucoup.
Ben, il faut croire quand même qu'il y avait quand même des choses qui...
Je suppose que c'était du fourrage qui venait d'Égypte, ou qui venait peut-être du Nord aussi, peut-être de régions... Mais enfin bon, ça faisait, tu t'imagines, 16 000 chevaux chaque jour à nourrir, à soigner, à surveiller, c'était pas mal.
Oui, ça fait beaucoup.
Alors la leçon de l'écuyer. Alors Jean-Yves, asseoir, coucher ou faire saluer son cheval, pourquoi ces airs pourtant incontournables dans les spectacles et dans le cinéma, et Dieu sait que tu sais les faire à la fois dans des spectacles, dans tes spectacles et dans le cinéma, ne sont-ils pas considérés comme académiques et suscitent toujours de la réprobation de la part de certains cavaliers dits classiques?
Mais dans l'académie, on essaye de reproduire, monter ce que le cheval fait en liberté pour exprimer sa joie, pour exprimer la vie, pour exprimer tout un tas de choses. Quand cheval parade devant une jument, il fait le piaffé, il fait le passage, il fait la courbette, il fait des sauts d'école, il est heureux de s'exprimer. Donc, un cheval se couche rarement devant un adversaire ou devant un partenaire ou devant une jument, donc c'est pas une allure reconnue, naturelle.
Et pourtant, tu le fais, et c'est oui, toujours très beau à voir, hein.
Oui, bien sûr. Bon, quand que c'est encore que le coucher, c'est pas très, très, très beau. Non, c'est pas très beau parce que le cheval, il se couche quand il est malade ou quand quand il est fatigué, mais c'est pas une allure de défi.
Ou alors le poulain, évidemment, mais un cheval adulte. Ou alors
le poulain quand il a le ventre plein pour se reposer. Ouais. Voilà.
D'accord.
Mais disons que le coucher et assis, aussi, ce sont pas des allures naturelles.
Donc, on peut faire une différence entre les allures naturelles.
Tout à fait.
Oui. Café, passage, épaule en dedans, appui, etc. Et puis des airs plus de cirque.
Apprendre à monter à cheval, c'est apprendre à respecter son cheval dans sa façon d'être cheval, dans toute sa morphologie. Parce qu'on peut l'abîmer quand on s'est mal trotté, quand on trotte mal, on l'abîme, on lui abîme le dos. Quand on ne sait pas trotter, enlever correctement. Et quand on ne sait pas le suivre, on lui donne des coups dans la bouche. C'est pareil, c'est des coups de sonnette qui détruisent, qui font mal au cheval.
Alors, on arrive au poney d'Élise. Alors, Élise, elle est bien embêtée parce que, bon, un jour, elle a voulu faire la maline et elle a mis un mort de bride dans la bouche de lutin. Alors, elle dit, oh, pas pour le monter, bien sûr, juste pour rigoler avec mes copines. Bon. Puis bon, le problème, c'est que la monitrice a vu ça et a passé une ronflée à Élise. Pas mal. Élise a eu les oreilles rouges. Alors, elle dit, je comprends pas. En Camargue, les gardiens montent avec des morts de bride et aussi les écuyers à Saumur, comme je l'ai vu à la télé. Alors, elle te demande, mais Jean-Yves, pourquoi on utilise soit un simple mort, soit de filet, soit mort de bride, ou parfois les deux à la fois. Alors en deux mots, qu'est-ce que tu peux répondre à cette pauvre Élise
Ce sont des effets différents que l'on demande dans tous les instruments. D'abord, l'idéal, c'est de pouvoir prendre le cheval à l'école au début, sans mettre rien lui mettre dans la bouche. Les Américains font ça, et pas mal de peuples cavaliers font ça aussi également. Donc ils font un licol qui sert un peu et qui leur permet de faire passer ce qu'ils veulent faire passer. Et puis après, petit à petit, quand le cheval a compris certaines choses, quand il est en équilibre, on lui met un filet qui agit sur la commission des lèvres. Et après, bien sûr, c'est la bride avec les 80, où il y a les deux effets. Il y a l'effet releveur, avec le filet qui agit sur la commission des lèvres, qui agit sur les barres. Et puis, il y a l'effet abaisseur, avec la gourmette, avec des branches, ou avec un mort qui agit sur les barres et qui fait baisser la tête au cheval.
Donc, en fait, c'est assez délicat d'utiliser l'enraînement complet, en quelque sorte, mort de filet, mort de bride. Ah, donc, en quelque sorte, ce qu'on peut dire à Élise, c'est que si la monitrice est mise un petit peu en pétard, c'est que plus le mort est dur, plus il faut que la main soit douce.
Absolument, puis il faut surtout avoir une bonne assiette et un bon équilibre.
Parce que quelqu'un
qui n'a pas
d'équilibre,
d'équilibre, on ne peut rien demander à son cheval, puisqu'il est raccroché, il est coincé. Donc, le cheval l'interprète très très mal, et puis la main a du ballon, la jambe a du ballon, donc pour ça il faut que tout soit en place et que tout soit fixe et qu'il travaille dans le bon sens.
Alors Jean-Yves, le dicton de la semaine du général de Carpentrie, né en 1878 et mort en 1956, alors il dit, ce n'est pas le relèvement de l'encolure, c'est l'abaissement des hanches qui est le but à atteindre.
Mais oui, bien sûr, c'est l'élévation des épaules, c'est pas l'élévation de l'encolure, c'est l'élévation des épaules qui commence, qui fait que le cheval va pouvoir abaisser ses hanches, parce qu'il faut qu'il monte les épaules et qu'il abaisse les hanches pour se mettre dans une attitude d'équilibre.
Alors,
l'attitude d'école.
L'attitude d'école. Alors, tu peux nous rappeler, il y a le salon du cheval à Albi à la fin de la semaine.
Ah, bien
alors,
sûr, il y a des grandes vedettes. Il y a Lorenzo qui sera présent. Lorenzo qui est le numéro 1 actuellement au niveau acrobatie à cheval. Et puis, il y a aussi une petite jeune fille, Clémence Desconnec, qui a 10 ans et qui est une révélation qui va se produire aussi également. Et bien d'autres artistes, d'ailleurs. Et je crois que ça va être un rendez-vous très prisé. J'invite les auditeurs à aller.
Oui, voilà. Alors, donc, c'est le vendredi 9, là, fin de semaine, le samedi 10 et le dimanche 11, donc au Palais des Congrès, je crois. C'est le Palais des Congrès à Albi. Hein.
C'est là où il y a toutes les expositions.
Le Palais des Expositions, plus exactement. Le Palais des Expositions. Donc, vendredi 9, samedi 10 et dimanche 11 à Albi. Ça n'est pas à louper. Ça, c'est vraiment impeccable. Alors, c'est avec plaisir que Jean-Yves Bonnet, le messager du cheval, et moi-même vous donnons rendez-vous mardi et samedi prochain, même heure, 12h35 et même adresse, pour vagabonder en votre compagnie sur les chemins de cette incroyable alliance nouée au cours des siècles en notre animal peureux et celles et ceux qui y sont passionnés. qui continue à s'y passionner aujourd'hui, non pour s'en servir, Jean-Yves, mais...
Pour le servir.
Pour le servir, sur CFM Rodez 107.9 et sur CFM Villefranche-de-Rouer 90.2. Vous pouvez également réécouter l'ensemble de ces émissions sur le site cfmradio.fr à la rubrique Le Messager du Cheval. Merci de votre fidélité, à la semaine prochaine et un grand bravo à nos chevaux. Ciao, ciao.
Chevaliers, alors des fiers sur leurs coursiers, en grand voyage vers le lointain pèlerinage. Hey, hey! La vie est un combat, ami, tu peux me croire, la plus belle des victoires est la victoire sur soi. Hey, hey! Non, 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 non. Droit et souris, ton cheval est ton ami pour t'aider à trouver le vrai sens de la vie. Hey, hey, confiance que tu as perdue, ce en toi tu ne croyais plus, suis-nous sur les sentiers pour la retrouver. Hey, non, 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 non. D'aigues mortes à Rodez, en passant par Salmières, du Languedoc au Rouergue. Après la mer, les salins, les marais, les garrigues, le plateau du Larzac, la couvertura de Nyonne, les Vézoux, Salmières, milieu du sel. Patrie de Béranger, de Landor, capitale du Rouergue de Rodez, entrée dans la légende de la route du sel.